religion du monde. Véronique Guémard.
Bonjour à toutes et à tous. Le célibat des prêtres dans l'Église catholique romaine pourrait-il être optionnel? Eh bien, c'est la question que pose la théologienne Anne-Marie Jautil dans son livre « La grâce et la pesanteur, le célibat obligatoire des prêtres en question » paru aux éditions Desclés de Brouwer. Bonjour Marie Jautil.
Bonjour Véronique.
Merci de nous accompagner tout au long de cette émission. Vous abordez ici une question qui reste encore très taboue hein, dans certains milieux très conservateurs de l'Église catholique et même dans les milieux que l'on pourrait croire plus progressistes sur le continent européen par exemple, plus sécularisé, mais où l'Église fait face à une crise des vocations, une crise de confiance aussi face au scandale des abus sexuels. Et vous commencez dans votre introduction par cette phrase, est-ce bien raisonnable de réfléchir encore au célibat des prêtres séculiers, plus exactement au célibat continent et chaste, exigé par le magistère catholique pour être ordonné. Le célibat, la continence, la chasteté, alors pourquoi est-ce si difficile, voire tabou, d'aborder toutes ces questions dans l'Église catholique romaine aujourd'hui, Marie Jautil?
Parce qu'il y a déjà une très grande confusion entre ces trois vocables qui sont pourtant très distincts. Le célibat, bien, ça veut dire que je ne me marie pas. La continence, ça veut dire que je n'ai pas de relation sexuelle. La chasteté, c'est la juste distance. Xavier Thévenot avait beaucoup travaillé cette question en disant que c'était le contraire étymologiquement de incestus, donc ce qui va donner le mot inceste, c'est-à-dire la fusion. Et donc, c'est une question de relation. Or, la chasteté, elle est pour absolument tout le monde. Vous comme moi, nous sommes dans une juste distance aujourd'hui. Un couple marié doit être dans la juste distance, un prêtre doit être dans la juste distance. Or, l'Église emploie très souvent le mot chasteté pour désigner tout ça, c'est-à-dire la continence et le célibat. Or, c'est faux et on ne peut pas jouer sur le vocabulaire, c'est trop important. C'est au fond tout cela qui est inclus quand on parle du célibat obligatoire des prêtres.
Alors, cette obligation sacerdotale, pourtant, ne date que du XIe siècle.
Hein. Absolument, de la réforme grégorienne, au moins pour l'obligation.
Alors, c'est une réforme, effectivement, à l'époque du Concile de Latran, deuxième Concile de Latran, on va en parler. Hein. Et rien que dans la Bible, on peut dire que rien n'interdit aux prêtres d'être mariés.
Pierre, le chef des apôtres, était marié. Jésus est allé guérir sa belle-mère. Donc, c'est bien une preuve, puisque nous l'avons noir sur blanc. Les autres, on ne sait pas trop. On pense que Paul, par exemple, devrait être célibataire. On n'en est pas à 100% sûr, on le pense. Les autres apôtres, bah, ils pouvaient être mariés ou ne pas être mariés. En tout cas, ça ne jouait pas. Alors, et puis Jésus n'a pas mis en place une église comme nous la connaissons aujourd'hui. Il n'y a pas une église hiérarchique avec un pape, des évêques et des prêtres.
Certains disent que Jésus était célibataire.
Ça, c'est vrai, mais de quel célibat et que signifie ce célibat? Et ça, c'est une vraie question. Et alors, est-ce qu'il était homme masculin? Il a pris chair humaine, mais dans une humanité qui n'était pas sexuée. Et le verbe s'est fait chair. Et on retrouve ces choses-là de façon esquissée à différents endroits. Et je crois que c'est assez intéressant de le noter.
Alors, vous écrivez aussi que de plus en plus, finalement, de prêtres aussi osent faire entendre leur voix, exprimer leurs difficultés, leurs questionnements. Nous allons entendre justement le témoignage d'un prêtre qui a dû quitter le magistère pour l'amour d'une femme. Et cette interdiction, d'ailleurs, n'existe pas dans les églises catholiques orientales. Nous entendrons aussi le témoignage d'un prêtre de l'église chaldéenne, récemment ordonné en France, à Maragag. Il est marié, il a trois enfants, une première en France, mais c'est habituel dans l'église orientale. Alors, l'ordination d'hommes mariés dans l'église catholique romaine n'a donc pas été abordée lors du synode sur l'avenir de l'église catholique, une consultation mondiale donc, que le pape a clôturée le 26 octobre dernier. Et notre correspondant à Rome, Éric Sénanque, a suivi le processus. Bonjour Éric Sénanque.
Bonjour.
Éric, rappelez-nous en quelques mots, quels ont été les grande conclusion de ce synode.
Eh bien, c'est d'abord une nouvelle façon de dialoguer dans l'Église qui a été entérinée à la fin octobre au terme de trois ans de processus synodal qui a donné lieu à deux assemblées à Rome. De façon générale, l'un des enseignements majeurs de ce synode, conformément aux vœux du pape François, est une vision moins verticale de l'Église où chacun a son mot à dire sur les grandes thématiques qui la concernent. L'idée qui a travaillé ce synode a été aussi, selon ses participants, de créer une dynamique missionnaire, c'est-à-dire comment annoncer l'Évangile et le message de l'Église l'Église dans des contextes culturels et géographiques très différents. On peut dire aussi que l'insistance a été mise sur la responsabilisation des laïcs ou encore des jeunes dans l'annonce de ce message.
Mais des sujets sont restés en suspens, notamment sur la place des femmes dans l'Église et le diaconat féminin, Eric ?
Oui, c'est la grande question qui a animé les 3 semaines de travail à Rome, celle des femmes. Mais le synode a botté en touche sur l'ordination diaconale pour les femmes, espérée par certains. Une question écartée des décisions finales et qui est d'ailleurs traitée dans une commission d'études à part qui devrait rendre ses conclusions au mois de juin prochain. L'accent est mis plutôt sur une meilleure participation des femmes dans la formation théologique, par exemple des séminaires. Mais pas question pour l'heure d'envisager un ministère ordonné pour les femmes.
Et puis des thématiques ont été carrément oubliées, notamment la possibilité d'ordonner des hommes mariés.
Oui, on se souvient que la question de l'ordination d'hommes mariés avait été beaucoup discutée lors du synode spécial sur l'Amazonie organisé en 2019 au Vatican. Mais quelques mois plus tard, dans son exhortation apostolique, le document publié par le pape à partir des travaux du synode, François avait évacué la question. L'ordination d'hommes mariés existe pourtant déjà dans l'Église catholique, c'est le cas des églises orientales notamment. Mais on le voit, la question n'est plus du tout au cœur de l'agenda. On a le sentiment que le pape François craint que certains sujets ne polarisent trop l'Église catholique.
Marie Jotil, nous allons aborder avec vous plus particulièrement la question du célibat des prêtres, célibat obligatoire des prêtres ou optionnel donc. Mais quel est votre regard déjà sur ce synode qui a duré 3 ans ? Est-ce qu'on peut dire que les choses quand même ont un peu bougé au sein de l'Église catholique romaine ?
Alors je suis très d'accord avec Éric Sénan quand il dit que ce qui a vraiment changé, c'est la nouvelle façon de dialoguer. Et peut-être un frémissement dans l'abrogation d'une excessive verticalité, si je puis dire. Je crois que c'est pas rien. Et peut-être que le plus positif, ça touche aussi le fait que le pape a rétrogradé dans sa position par rapport à l'ordination diaconale. Rappelez-vous que quand même, il avait donné officiellement cette mention qu'il ne voulait pas de femmes ordonnées diacres. Or, là, l'ouverture est inscrite dans le texte, donc c'est pas rien. Il a promis également en séance de suivre les groupes de travail. Donc ça, c'est pas rien non plus. Et enfin, troisième remarque, la question de l'ordination d'hommes mariés a été évoquée officiellement par l'évêque suisse Gmür de Basel, d'une manière très officielle. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, cette parole de tout le monde à l'intérieur du synode. Un autre point encore qu'on devrait souligner, c'est la remise du pape du texte final voté du synode au peuple de Dieu, sans qu'il reprenne une exhortation. Ça veut dire qu'il fait confiance à ce peuple de Dieu, ce qui n'est pas rien, et je pense qu'on peut aussi le mentionner. Donc il y a quand même un certain nombre de points positifs, même si c'est vrai qu'on aurait aimé aussi les pousser un peu plus loin, mais je crois que c'est déjà pas mal.
Alors, le synode allemand avait osé aborder la question du célibat des prêtres, optionnel donc, oui. Avait demandé en mars 2023 au pape François une réforme en 3 points. Le premier étant de réexaminer le célibat des prêtres. Ouais. Une possibilité avait été abordée aussi lors du synode sur l'Amazonie en 2019, Éric Sénan le mentionnait, mais ça a été abandonné depuis. Est-ce qu'il y a réellement une crainte de schisme dans l'Église catholique ?
Je crois pas pour cette raison. Je crois pas. C'est plutôt la réforme en général. C'est-à-dire que, en fait, nous abordons là un immense chantier, mais vraiment immense. Et je crois que les gens n'ont pas souvent conscience. Quand le rapport de la CIAS parlait de...
Sur les abus sexuels dans l'Église catholique en France.
Et évoquait le mot de systémique.
Des abus systémiques.
Qui relèvent de dysfonctionnement systémique. Dysfonctionnement systémique, ça peut paraître compliqué comme expression, mais ça veut dire que l'ecclésiologie, la pastorale, la spiritualité, l'exégèse, l'éthique sexuelle et familiale, la question des femmes, la question du célibat, toutes ces questions sont foncièrement liées. Donc elles sont tellement liées parce que durant les siècles, on s'est bien rendu compte qu'il y avait des dysfonctionnements. Donc on a apposé des réformes un peu diverses et du coup ça donne une espèce de grande machinerie aujourd'hui où tout est relié et où dès qu'on touche un fil et le célibat est que un fil, mais un fil quand même, parce que la question des femmes, du pouvoir, etc., lui est liée, c'est toute la boule qui arrive derrière.
Marie Jotil, vous abordez donc des questions dans votre livre de façon frontale. La question de la sexualité, les justifications de l'obligation du célibat, est-ce qu'elles sont fondées, acceptables ?
Quand on parle du célibat, il y a deux choses. Il y a des gens qui sont faits pour le célibat. Et je crois que c'est un charisme, le célibat. Et je crois que même c'est un très beau charisme. Donner toute sa vie à Dieu, le célibat pour le royaume de Dieu. Je l'explique assez bien dans mon livre, mais je n'ai pas le temps d'y revenir. Mais c'est une belle chose. Mais tout le monde n'est pas fait pour ça. Et c'est là que le bât blesse. C'est-à-dire que ce qui est marqué dans la Bible, chez saint Paul, comme chez Matthieu, j'essaye de reprendre tous les arguments officiels donnés par le Concile pour justifier, au fond, le célibat obligatoire. En fait, ça justifie la possibilité du célibat, mais pas l'obligation du célibat. Et je considère personnellement que ce sont là deux charismes différents. C'est-à-dire, les uns sont appelés au sacerdoce, les autres sont appelés au célibat. Parfois, quelqu'un est appelé aux deux à la fois, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas si évident, même le discernement. Pourquoi ? Parce qu'on a 20 ans, on est dans le séminaire, on vit dans une communauté à l'intérieur du séminaire, on a toute la joie du vivre ensemble, de célébrer, le Seigneur nous a appelés, c'est fantastique, il n'y a pas de problème de célibat. Mais après le séminaire, quand on côtoie la réalité pastorale, quand on côtoie la sécularisation, quand on se rend compte que finalement cet enthousiasme qu'on portait en soi, quand on se rend compte que ben, c'est pas si évident, que ça se passe pas exactement comme ça, que les gens ne suivent pas, qu'ils vous critiquent, que vous vous retrouvez seul dans le séminaire, parce que nos prêtres sont relativement indépendants en général, pas tous, mais souvent. Là, les questions commencent à se compliquer. Et là, je réfléchis, je reprends une réflexion sur le sujet. Je me dis, mais est-ce que finalement ce célibat est adapté pour moi ou est-ce que je suis fait pour autre chose ? Et c'est là que la question est plus compliquée que simplement ordonner des prêtres mariés, vous voyez ? Parce que dans la perspective actuelle de ce qui est en discussion au magistère, c'est ordonner des hommes mariés. Or, la question se pose de pouvoir encore se marier.
Quand on est déjà prêtre.
Quand on est déjà prêtre, parce qu'on ne s'est pas rendu compte tout de suite. Plutôt que de les renvoyer, de les démettre de l'état clérical, ce qui est extrêmement problématique.
Vous écrivez par exemple que quand les clercs mènent une double vie, hétéro ou homosexuelle, quand l'aigreur de la solitude entraîne sur les flots de l'autoritarisme et des abus spirituels ou de pouvoir, le peuple de Dieu peut-il rester les bras croisés ? Comment sortir de l'illusion ? Finalement, vous parlez de une sorte d'hypocrisie.
Oui, on sait un nombre incroyable de prêtres, même s'il y a des études qui sont relativement fiables selon les pays. Mais il y a quand même un prêtre sur deux au moins. Il y en a qui donnent des chiffres beaucoup plus exorbitants en parlant d'homosexualité pour les trois quarts des prêtres. J'irai pas aussi loin parce que je pense que de toute façon, tout dépend aussi des pays. Mais il y a quand même eu des études et ces études continuent. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? La possibilité, c'est de vivre avec une double vie, de s'enfermer dans un placard et de ne rien dire. Il y a la possibilité de dire à l'évêque, ben écoutez, non, ça y est, j'ai rencontré une femme, c'est la première fois que je découvre l'amour de ma vie. Je suis parfois étonnée de cet enthousiasme des prêtres qui n'imaginaient pas ce que c'était l'amour d'une femme.
On va avoir un témoignage en ce sens.
C'est tout à fait extraordinaire. Et puis, il y a aussi le fait de l'homosexualité qui a trouvé refuge dans l'Église parce que, justement, on n'avait pas besoin de se marier, donc on ne se posait pas de questions. Si vous êtes homosexuel, masculin, prêtre, on ne vous pose pas la question. Pourquoi vous ne vous mariez pas ? Ben non, c'est normal. Mais c'est en train de changer aussi, si j'en crois Jocelyn Tricot.
Et la question centrale, c'est que cette obligation aussi du célibat était imposée par le haut, dites-vous, sans tenir compte de la réalité du vécu des clercs, donc c'est ce que vous dites, et vous évoquez même un verrou cléricaliste, sexe, genre et pouvoir.
Oui. Alors ça, on le comprend très très bien quand on ressaisit l'histoire du célibat depuis le tout début, au 1er siècle.
Parce voilà, sur la non-compatibilité, entre guillemets, avec l'exigence de pureté et de perfection du sacerdoce.
Oui, exactement. Parce que Jésus, d'une certaine façon, ne faisait pas de différence entre les hommes et les femmes. Il accueillait tout le monde. Il mangeait à la table des pécheurs. Enfin, voilà. Et il a pris cher pour tout le monde. Le premier Paul, parce qu'il y en a trois, hein, donc le Paul vivant qui a écrit les premières lettres, est exactement dans la même veine. C'est-à-dire qu'il confie des responsabilités aux hommes, aux femmes, à tout le monde. Les femmes sont chefs de communauté. Phébé est une femme diacre, etc. Mais ensuite, c'est le machisme ambiant qui reprend, le patriarcalisme ambiant, y compris l'aide du stoïcisme ambiant qui va aider Paul. Mais c'est plus Paul, c'est les communautés pauliniennes issues, hein, deuxième Paul, troisième Paul, parce que les dernières lettres de Paul, c'est de la fin du premier siècle, il ne faut pas l'oublier. Donc, la perspective de l'impureté des femmes et de leur discrimination va aller en croissant. Et donc les femmes, à partir du deuxième siècle, on va avoir quasiment plus de responsabilités. Les clercs, dans une perspective monachiste, parce que ça va prendre une place beaucoup plus importante, le courant monastique, les femmes n'ont plus de place autour de l'autel. Les clercs, puisque certains peuvent respecter le célibat, et vous voyez, on en est déjà là, à la continence, et bien à partir du milieu du IIIe siècle, deuxième, troisième, peut-être dans les années 250 par là, eh bien, on affirme clairement la supériorité des clercs sur les laïcs. Et les laïcs sont de moins en moins formés. Et si vous êtes femme, ben voilà. Donc ceux qui ont le plus de pouvoir, on dit, ben c'est ceux qui savent maîtriser, contrôler leur sexualité, qui sont donc les plus aptes au pouvoir. Alors, on ne peut pas dire que ce verrou clérical, pouvoir, sexe, genre, existait au IIIe siècle, mais il va être à la base, parce que c'est toute la question du pouvoir qui va petit à petit grandir dans l'Église jusqu'à aujourd'hui avec des modalités diverses.
Alors Marie Jotil, au départ, cette réforme au XIe siècle, puis donc plutôt vers le XVIe-XVIe siècle avec le Concile de Trente qui va vraiment instituer, enfin écrire noir sur blanc, la question du célibat obligatoire pour les prêtres, pour le sacerdoce. Cette réforme a été reçue avec beaucoup de résistance de la part des prêtres, y compris aujourd'hui.
La résistance a été depuis toujours très très forte. Il y a une différence entre la ville et la campagne. Dans les campagnes, ce n'était pas du tout reçu parce qu'un prêtre qui n'était pas marié, ce n'était pas pensable. En fait, ce qu'on reproche à la réforme grégorienne, c'est sa verticalité, c'est son obligation. Et ça, ça passe pas du tout. Dans les villes, surtout, les historiens ont montré de façon extrêmement claire combien on a imposé à certains clercs la séparation de leur épouse avec des violences extrêmement fortes, en les déshéritant, en les esclavagisant. Donc il y a eu des réactions violentes et la réforme n'a pas passé du tout, sauf dans un petit cadre italien. Vous voyez, c'est très très local. En Irlande, ça n'a jamais passé.
Mais aujourd'hui encore, il y a des résistances.
Absolument.
Et on l'entend d'ailleurs, on va écouter ça dans cette émission. Je l'évoquais donc en début d'émission, Marie Jotil, l'Église catholique orientale, elle, en est restée à ce qui avait été établi lors du Concile de Nicée en 325, à savoir qu'un homme ne peut pas se marier après son ordination, il reste célibataire, mais qu'un homme marié avec des enfants peut devenir prêtre. Et c'est le cas de Amar Agag, je le rencontre après la messe qu'il a célébrée à l'église Notre-Dame de Caldée à Paris, dont il est le curé depuis septembre dernier. Il est irakien, il est venu en France avec ses parents il y a longtemps, il y a plus de 15 ans, il est marié depuis 2015, il a trois enfants, il avait été ordonné diacre, il a suivi une formation accélérée en cours du soir, car l'église manquait de prêtres, notamment qui parlent l'arabe, dans cette paroisse où viennent beaucoup d'Irakiens réfugiés en France. Et il insiste, lui, sur l'appel de Dieu qui a été son guide après son mariage.
Il paraît que moi, je suis l'un des premiers à se faire ordonner autant qu'homme marié pour l'église catholique chaldéenne en France. Mais nous avons d'autres prêtres qui sont mariés, mais ils étaient ordonnés en Irak ou en Turquie, vous voyez. Donc chez nous, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps.
Dans l'église orientale.
Dans l'église catholique orientale. Et même chez nos frères orthodoxes aussi, ils se marient Et même chez nos frères maronites catholiques aussi, pareil, ils sont mariés, la plupart des prêtres qui se marient.
Et d'ailleurs, quand vous avez été ordonné prêtre, votre femme a été inclue aussi dans cette ordination. Il a fallu aussi son consentement.
Alors oui, on demande toujours le consentement de la femme parce que c'est quelque chose qu'on dit va venir impacter un petit peu la vie de famille. Il faut que la femme, bien sûr, accepte. Et d'ailleurs, le cardinal, avant de commencer la célébration de l'ordination, la première chose qu'il va faire, il va s'adresser à ma femme en lui posant la question « Est-ce que vous consentez pour l'ordination de votre mari ? L'Église demande à votre mari d'être ordonné prêtre, vous l'acceptez ?» Et puis, elle signe un document aussi qu'elle est tout à fait d'accord avec cela. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'appel de Dieu, il n'est pas que pour le prêtre lui-même, mais il est pour toute la famille, donc la femme et puis les enfants aussi. Donc c'est un appel de Dieu qui est pour toute la famille.
Et une jeune femme, Rita, qui a assisté à la messe dimanche, elle dit que le fait que le prêtre Amar Agag soit marié, ça ne change rien, bien au contraire.
Alors, tout d'abord, ce n'était pas un choc pour nous parce qu'en Irak, on a l'habitude d'avoir des prêtres mariés. Et puis, le fait justement qu'Amar a une famille fait qu'il est beaucoup plus proche de nous en tant que jeunes, par exemple. Parce qu'il a ses enfants et je pense qu'il a ce sens du père, du coup, de père de famille qu'il arrive à mettre en pratique dans l'église. Lors de son ordination, on a bien vu nos amis français étaient un peu choqués, si je peux dire, parce qu'ils ne s'y attendaient pas et c'est quelque chose qui n'est pas présent en France. Mais c'est vrai que pour moi, il n'y a pas de différence entre les deux. Quand une personne ressent l'appel de Dieu, je pense que rien ne change, qu'il soit marié ou pas. C'est dans le cœur, en fait.
Et Amar Agag lui-même a plusieurs vies. Il cumule le travail, la paroisse et la famille.
Je suis taxi parisien, mais qui transporte les personnes à mobilité réduite en fauteuil. J'ai un véhicule qui est spécialisé. Et puis Monseigneur Ulrich, qui est mon évêque ordinaire, il a une double nomination, Monseigneur Ulrich. Il est archevêque de Paris, mais en même temps, il est notre évêque en France, parce que nous n'avons pas d'évêque en France, donc c'est Monseigneur Ulrich qui est évêque ordinaire des chrétiens orientaux. Mais il est très content, et puis il m'a dit « je voudrais que tu continues ce travail ». Et puis moi, en même temps, ça m'a permis de faire de la pastorale, c'est-à-dire en déposant une personne dans un hôpital parisien, que ce soit la Salpêtrière, l'hôpital Tonon, Saint-Louis. J'y vais tout de suite, en attendant que le rendez-vous se termine de cette personne. Quelquefois, ça dure très longtemps. Donc, je vais tout de suite à l'aumônerie et demander « est-ce qu'il y a personne qui souhaite être visité ?» Et on me dit souvent « oui ». Et donc, j'ai le corps du Christ dans la voiture, j'ai l'étole, j'ai tout ce qu'il faut, l'onction des malades. Et je visite les personnes que je ne connais pas du tout dans les hôpitaux. Quelquefois, quand je rentre, je sais que ça m'est arrivé dernièrement, il y a quelques semaines, à l'hôpital Salpêtrière, j'ai dit au monsieur, parce que je m'annonce tout de suite comme prêtre chaldéen catholique et je suis homme marié. Et tout de suite, le monsieur m'a dit, mais ah, finalement, c'est accepté dans l'église catholique, les hommes mariés, être prêtre. Je dis, non, non, mais ça existe depuis longtemps, ça c'est chez nous, les chaldéens, ça existe. Donc il était très content et en même temps, ils sont surpris de voir un homme marié qui travaille, qui une vie de famille, qui est père, qui est curé. Donc, ils sont touchés, je dirais. Ils me disent, mais même j'ai des amis prêtres parisiens, ils me disent, mais comment tu fais avoir plusieurs casquettes en même temps? Je dis, bah, c'est la grâce de Dieu, c'est le Saint-Esprit que Dieu envoie sur nous. Je pense que Dieu appelle les personnes justement pour leur donner cette grâce. Et je remercie Dieu aussi de parler plusieurs langues. Ça me permet de parler en arabe avec les personnes qui parlent l'arabe, ils se sentent plus proches. Et qui sont de d'autres confessions, bien sûr. Et puis le chaldéen, puis le français. Donc c'est une grâce de Dieu, vraiment.
Et vous chantez en araméen ?
Je chante en araméen et en arabe, quelquefois. Donc ici, les gens, non, ils sont très, très contents d'être père de famille et puis marié. J'ai l'impression que ça les rassure vraiment par rapport à ce qu'on a entendu, beaucoup de choses. Ça fait couler beaucoup d'encre, cette histoire de l'Église, par rapport à des choses qui se sont passées. Donc,
la pédophilie dans l'Église, les abus sexuels, vous voulez dire ?
Voilà, c'est un petit peu, ça a fait poser beaucoup de questions, mais les gens, ils sont mis un peu en retrait, en fait. J'ai beaucoup de personnes que je transporte, pas les paroissiens, des personnes que je transporte, qui sont catholiques et qui me disent aujourd'hui on est loin de l'Église pour ces causes-là. J'ai dit mais écoutez, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Au contraire, il faut y aller, il faut persévérer. C'est Dieu qu'on cherche, c'est de Dieu qu'on vient, c'est à Dieu qu'on retourne. Et puis, je sens que les gens, ils sont plus rassurés quand ils voient un prêtre marié, tout simplement.
Et le fait de côtoyer en France d'autres prêtres de l'Église catholique romaine, est-ce que du coup ça les interroge, eux, sur leur manière de vivre ce sacerdoce ?
Ils me disent qu'eux, ils n'ont qu'une seule charge. C'est vrai, être célibataire, c'est difficile quand même. Et eux-mêmes, comme je vous ai dit, ils se posent la question. Ils me disent, en fait, tu as double charge. En fait, tu es marié et en plus, tu es prêtre. En fait, pour eux, c'est beaucoup plus difficile d'être marié et d'être prêtre. Donc, eux, ils le voient comme ça. Ils disent, c'est dur, en fait, c'est pas facile pour toi.
Voilà, une réaction, Marie Jotil, à ce témoignage d'Amaragag.
Eh bien, je crois que c'est extrêmement important, d'abord ce témoignage, et d'une certaine façon, le fait que les gens prennent conscience que nos frères et sœurs chrétiens ont d'autres disciplines que la nôtre. Parce que je crois qu'il y a un point de challenge, un vrai défi pour l'Église. On ne peut pas ordonner comme ça du jour au lendemain une quantité énorme de prêtres mariés parce que ça va faire clash à l'intérieur de l'Église. Je crois qu'il faut apprendre à s'amadouer réciproquement, voyez, parce que les responsabilités ne sont pas les mêmes, etc. Quand on parle de disponibilité, quand vous rentrez au presbytère le soir et que vous avez le café, ben vous ne faites plus rien du tout. Vous avez beau être célibataire, et ben vous n'avez personne à qui parler, vous ruminez votre frein et vous ne faites rien. Or, quand on a une vie active, quand on a une vie dynamique comme ce prêtre chaldéen catholique, eh bien, ça change complètement la donne parce que c'est extrêmement stimulant.
Et vous plaidez d'ailleurs vous-même pour un rapprochement entre toutes les églises chrétiennes, hein, protestantes,
oui,
catholiques occidentales, orientales, orthodoxes.
Il faut vraiment un partage d'expériences. C'est ce qui va, au fond, faire diminuer les craintes et permettre, au fond, de réfléchir ensemble avec nos richesses réciproques au ministère dont nous avons besoin pour suivre le Christ et mettre en œuvre l'évangile du Christ.
Mais pourtant, il y a eu de nombreux débats sur la question du mariage des prêtres, déjà donc Vatican II, même au début des années 70, ça a failli aboutir. Donc des questionnements qui freinent toujours cet engagement de nouveaux prêtres. Il y en a qui disent, bon, effectivement, on perd de bons prêtres qui choisissent le mariage, c'est-à-dire des personnes qui quittent l'Église catholique, parce que effectivement, on l'évoquait au début de cette émission. Et il y a la question aussi des abus sexuels qui prennent de l'ampleur, Marie Jotil, donc même si le rapport de la CIAZ en 2021, qui a révélé l'ampleur des abus sexuels dans l'Église en France, écrit qu'il n'y a pas de lien direct entre célibat des prêtres et abus sexuels. Mais bon, on l'entend aussi dans divers témoignages ici, dans cette émission.
C'est vrai que pour beaucoup de gens dans l'Église, il y a un rapport. Mais en fait, ce rapport n'existe pas. Le premier lieu d'abus des enfants, c'est la famille. Et les pères de famille sont mariés. Donc, ce n'est pas le célibat. Mais comme on a dit au début de l'émission...
C'est systémique, c'est le système.
C'est le systémique qui fait qu'au bout d'un certain temps, souvent... Bon, certains le disent dès le départ, qui ne sont pas faits pour ça. Et c'est un choix crucifiant de ne pas devenir père, de ne pas se marier, etc. Et qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces personnes? Est-ce qu'on les renvoie purement et simplement? Je crois que ça met mal à l'aise et les prêtres et les évêques, et aussi des gens comme un certain nombre de cardinaux, hein, il faut le dire, Marx, Ulrich, O'Malley, qui ont un rôle très important dans l'Église. Et je crois qu'il y en a d'autres qui n'osent pas trop le dire. Mais la réalité, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, Alors justement, c'est le cas de Christophe Chatillon. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, lui qui était prêtre pendant 23 ans, il avait été ordonné prêtre en 1999, il était curé doyen du centre d'Orléans. En 2016, il devient le recteur de la cathédrale Sainte-Croix. Mais en janvier 2023, il y a près de 2 ans, il annonce quitter le ministère et la prêtrise pour l'amour d'une femme, Juliette.
Ce choix du célibat, moi, quand j'ai été ordonné, donc... À l'époque, j'avais 27 ans, ça ne m'avait pas posé de questions. Et c'est vrai que il s'est remis en question au fur et à mesure des années, de l'exercice du ministère, des rencontres qu'on fait, des personnes qu'on accompagne, des joies que l'on vit, des difficultés que l'on rencontre. Et à un moment donné, il y a des liens qui se créent. Et comme l'Église le pose comme règle pour l'exercice du ministère, pour moi, il y avait vraiment un souci de crédibilité et je ne me voyais pas continuer à... avoir une double vie et continuer à exercer mon ministère en parallèle, c'était devenu impossible, quoi.
Mais alors, quand vous avez commencé à vous poser des questions auparavant sur les difficultés justement d'exercer le ministère, est-ce que vous aviez des réponses de la part de votre hiérarchie dans l'Église sur la solitude? Enfin, quelles étaient les questions que vous vous posiez et comment vous pouviez échanger à ce propos?
Quand on est vraiment confronté à des difficultés qui nous renvoient à une certaine forme de solitude, comme vous dites, souvent on nous dit qu'il faut se tourner vers la vie fraternelle, il faut se tourner vers la prière. Voilà, on essaye de trouver des palliatifs qui, à un certain moment, ne fonctionnent plus, quoi. Et c'est vrai qu'on peut avoir des lieux de parole à travers une vie d'équipe, à travers un accompagnement spirituel, ou même de temps en temps, lorsqu'on fait le point avec son supérieur hiérarchique, on peut exprimer un mal-être, on peut exprimer des difficultés, on peut exprimer de la souffrance. Mais c'est vrai que la question du célibat, elle est plus difficile à aborder parce qu'on sait que derrière, les conséquences seront de se poser vraiment la question de la suite ou non du ministère.
Et Christophe Chatillon donc, disait qu'effectivement, il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas rester prêtre. Il a eu du mal à en parler, d'ailleurs, sauf à sa famille, à la famille de sa compagne, quelques amis prêtres très proches. Et quand il a annoncé à son évêque sa relation amoureuse, eh bien, voici quelle a été la réaction.
Je pense beaucoup de surprises, même si il sentait bien que j'allais pas bien. Puis ça, je l'avais déjà évoqué plusieurs fois avec lui depuis quelques mois. Lui, il pensait plutôt que j'étais en limite burn-out. Il était prêt à me laisser prendre du recul par rapport à la charge et à ce que je vivais. Mais il n'imaginait pas que j'allais lui annoncer que je vivais une relation sérieuse avec Juliette et que j'envisageais pas la suite sans elle et que ça avait des conséquences sur l'exercice de mon ministère. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment allé le voir une fois que dans ma tête et dans mon cœur, la décision était prise. Je savais que j'allais appuyer sur le bouton où tout s'enclencherait rapidement.
C'est ce qui s'est passé ?
Oui, c'est-à-dire qu'en une semaine, entre le moment où je lui ai annoncé et le moment où je suis parti, il s'est passé à peu près une semaine et demie où il fallait que je déménage tout, je n'ai plus le droit de célébrer, je n'ai pas eu le droit de dire au revoir aux communautés que j'ai accompagnées. Donc ça a été assez brutal, mais je m'y étais préparé intérieurement. Je me doutais, connaissant un petit peu le fonctionnement de l'Église, ayant été aussi au Conseil épiscopal un certain temps, je connais notre fonctionnement, donc je savais que je n'avais pas rentré dans une phase de dialogue, de négociation, mais que je venais partager à mon évêque que je faisais un choix, qui n'était pas un rejet de ce que j'avais vécu, mais que là où j'en étais, je faisais ce choix de vivre un amour différent, quoi.
Et à partir de ce moment-là, vous avez eu quand même des échanges aussi avec des fidèles ?
Alors j'ai eu beaucoup de retours avec des fidèles, c'était des retours d'encouragement, de soutien et beaucoup de compréhension. C'est ce qui m'a le plus étonné dans toute cette aventure, c'est la compréhension des laïcs et des membres des communautés par rapport à cette décision que j'avais prise. Pour certains, le regret que je parte, pour certains, le regret que l'Église n'ouvre pas une autre voie, mais ça ne dépend pas d'eux, ça ne dépend pas de moi. Alors que inversement, au niveau institutionnel, les confrères et la hiérarchie, c'était mais je le comprends aussi qu'ils aient eu plus de mal à accepter ma décision.
Marie Jotil, une réaction à ce témoignage de Christophe Chatillon?
Oui, merci. Je crois que c'est très classique. Pardon de le dire un peu comme ça. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est ce rejet de l'Église officiel, l'évêque.
Oui, vous l'écrivez d'ailleurs dans votre livre. Quitter le sacerdoce est souvent une source de grande souffrance.
Oui, et puis vous imaginez du jour au lendemain, parce qu'une semaine, c'est un changement de vie pareil, c'est quelque chose d'absolument terrible. Donc là, visiblement, Christophe Chatillon a accepté le départ. On n'accepte pas parfois le départ. Hein, donc un des prêtres de Strasbourg, justement, n'a pas accepté. Donc l'évêque a dû faire une procédure pour le renvoyer de l'état clérical qui a duré des mois. Il avait raison, d'une certaine façon, de dire, écoutez, et je crois que c'est une question de fond, l'Église a reconnu l'appel au sacerdoce. Qu'est-ce qu'elle fait de cette reconnaissance d'une vocation au sacerdoce? Est-ce qu'elle peut dire du jour au lendemain, d'une minute à l'autre, qu'elle ne le reconnaît plus, cet appel? Est-ce que c'est très évangélique? Donc ça, pour moi, c'est une question qui est terrible. D'autant que la lettre de renvoi de l'état clérical est quelque chose de terrible. J'en ai vu une qu'on vient de m'envoyer, mais excusez-moi, ils ne sont pas excommuniés, mais c'est tout comme. Ils n'ont plus le droit de rencontrer les fidèles, ils n'ont plus le droit de lire à l'église, ils n'ont plus le droit de distribuer la communion, ils n'ont pas le droit de faire du catéchisme, ils ont le droit d'exercer aucun métier en rapport avec l'église. Mais attendez, quand vous avez 40, 50, 60 ans, mais vous faites quoi? Alors, je voudrais réagir aussi sur ce qu'il disait à la fin, sur les courriers qu'il a eus.
De soutien.
De soutien.
Des fidèles, oui.
Ce qui ne m'étonne pas non plus. Parce que tout ce que j'entends à longueur de journée, c'est « Mais pourquoi est-ce que l'Église continue d'être aussi, comme les gens disent, je mets des guillemets, archaïque et de ne pas le permettre ?» C'est un peu ce qu'on a entendu tout à l'heure avec le côté de l'Église chaldéenne. C'est du bon sens et les gens aiment ce bon sens.
Et d'ailleurs, Christophe Chatillon regrette que le synode n'ait pas avancé sur cette question.
Moi, je ne peux que regretter que l'Église n'avance pas plus vite. Vous avez abordé la question de l'ordination des hommes mariés, ce qui est encore différent que la question du mariage des prêtres.
Voilà, il y a
là,
deux questions.
Elle avait vraiment, oui. Ouais, c'est ça. Et j'entends bien le fait de cette mise à l'écart pour être au service de tous, disponible à tous, entièrement donné à l'image du Christ. Je suis entièrement d'accord avec toutes les raisons théologiques que certains peuvent trouver. Mais en même temps, ça reste quand même une règle qui est surtout disciplinaire. Et je pense qu'on peut être donné et en même temps avoir une vie de famille à côté. Moi, j'ai plusieurs amis qui sont pasteurs dans l'église protestante, qui gèrent très bien leur vie de communauté, qui prêchent très bien, qui ont une vraie vie de prière et qui ont une belle vie de famille à côté. Et c'est naturel. Donc, je trouve dommage que dans l'église, on n'ait pas cette possibilité-là.
Et effectivement, ce qu'a vécu Christophe Chatillon, vous le disiez, hein, Marie Jotti, c'était assez violent. Et il a subi justement ses conséquences.
Je pense que ce qui freine aussi des fois à prendre la décision, c'est que quand on quitte, on n'a plus du tout de statut social. On se retrouve vraiment à, pas à la rue, parce qu'on est aidé, accompagné, entouré, mais il y a quand même une difficulté de quitter le ministère où là, on est pris entièrement en charge par nos diocèses sur tous les plans. Et d'un seul coup, comme on démissionne, on n'a pas le droit au chômage. Comme on a été prêtre, il n'y a pas de reconnaissance par rapport à la retraite ou à ce genre de choses. Donc, c'est une décision où il y a un peu un saut dans le vide qu'on fait. Donc, c'est ça qui demande aussi une bonne réflexion avant de franchir le pas, parce que ça ne se fait pas à la légère. Quoi.
Voilà, c'est une question aussi que pose Christophe Chatillon, hein, Marie Jotil. Cette violence aussi, elle est là.
Cette violence, elle est terrible. Et je crois que un certain nombre d'évêques l'ont quand même comprise. Je pense que ça fait partie, même si ce n'est pas dit officiellement, de ce qui se discute actuellement un peu partout dans le monde. Il disait bien, on sort de là, on n'a pas de chômage, on n'a rien. Hein. Mais normalement, l'Église, c'est obligatoire dans le droit canonique qu'on ne peut pas laisser quelqu'un aller dans la rue. Et d'une. D'autre part, je trouve aussi très important, parce que nous le faisons à Strasbourg, mais tous les évêques ne sont pas disponibles à cela, nous veillons à ce que les séminaristes et des diplômes universitaires. Parce qu'avec des diplômes universitaires qui sont valables toute leur vie, vous pouvez au moins faire preuve d'une formation universitaire. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement important aussi.
Et alors se pose aussi la question des enfants, puisque des prêtres ont des enfants. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Et c'est la question que pose le cardinal Fridolin Ambongo. Il est archevêque de Kinshasa, en République démocratique du Congo, où les positions sur l'Église catholique sont très conservatrices.
On peut avoir des prêtres qui commettent des péchés Mais le péché le plus connu chez nous, c'est plutôt des prêtres qui vont avec des femmes. Et à, comme conséquence, il y a des enfants. Il y a ce problème du respect de son engagement dans le vœu de célibat qui se pose pour beaucoup de prêtres chez nous. C'est vrai, quand il y a des enfants dedans, ben, tout enfant a droit à un père. Il faut qu'il y ait des conséquences.
Voilà, il dit qu'il faut qu'il y ait des conséquences. Alors, on va écouter quelques témoignages qu'a recueillis Pascal Moulégois, notre correspondant à Kinshasa, d'étudiants dans une université catholique qui s'expriment sur cette possibilité ou non d'un célibat optionnel pour les prêtres, notamment en République démocratique du Congo.
Nous avons fait les séminaires, on dit qu'on doit protéger la sacralité du sacerdoce. Déjà, quand on accède au sacerdoce, il y a d'autres charges familiales qu'on ne saura pas gérer. Parce que supposons qu'on vit dans un presbytère ou dans une cure, on ne sait pas gérer famille et enfants. Ça fragilise un peu la sacralité de celui qu'on appelle prêtre ou de celui qu'on appelle pasteur. On ne peut pas mélanger tout ce qui est famille et encore la sacralité de l'Église. Ça risque de fragiliser l'Église.
Moi, je me demande si on permettait que les prêtres se marient dans l'Église catholique, genre que les prêtres aient des femmes et tout. Mais non, est-ce qu'on va maintenant mélanger le sacrement de mariage et le sacrement de l'ordre? C'est carrément impossible. Donc, ça doit rester seulement que quand tu es prêtre, tu as été ordonné, tu as le sacrement de l'ordre et puis point barre. Donc, on ne peut pas permettre ça.
Et ceux qui ont déjà des enfants, on le connaît dans nos communautés, il y a des prêtres qui ont des enfants.
Je demanderai vraiment aux autorités qu'ils ne soient plus prêtres, qu'ils soient seulement dans l'Église catholique, mais ils ne soient plus prêtres.
On doit un peu ouvrir l'Église parce que je pense que de plus en plus, on est en train de revenir vers le cléricalisme où plusieurs postes ou plusieurs charges de l'Église sont confiées aux prêtres. Or, l'Église, c'est l'ensemble du peuple des dieux, d'où on doit laisser aussi certaines responsabilités aux fidèles pour assumer la gestion.
Sinon, que dire des prêtres qui ont déjà des enfants?
Je prendrai la décision de conservateur. Je pense que le pape François l'avait dit, il faudrait faire un choix. Soit on est prêtre, soit on est parent. On ne peut pas combiner les deux pendant que l'on avait pris l'option d'être prêtre.
Voilà donc les personnes qui sont contre le fait que des prêtres puissent avoir des enfants. Enfin, que faire effectivement avec cela? Mais certains sont favorables au célibat optionnel dont vous parlez, Marie Jotil, pour les prêtres.
Moi, je suis pour la réforme selon laquelle les prêtres puissent se marier. Parce que le mariage et la reproduction dans le monde, c'est une des recommandations de Dieu à Adam, celui de multiplier la terre. Non seulement les personnes qui sont consacrées doivent rester célibataires parce que le droit canonique le dit, mais tout peut être changé, ça dépend du contexte dans lequel nous vivons. Et aujourd'hui, une réforme pareille, ça serait une très bonne chose.
Sinon, que dire des prêtres qui ont déjà des enfants?
Voilà, cela explique le fait qu'aujourd'hui, on doit essayer un peu de normaliser cela, de lier ces deux sacrements, parce que ces prêtres-là, aujourd'hui, on les considère comme des tricheurs dans le ministère de Dieu, ce qui n'est pas bon. Normalement, on devait les normaliser et puis tout le monde les fera à son bon gré, au lieu de fuir, de faire ça à gauche, à droite, secrètement.
Une réaction, Marie Jotil, à ces témoignages recueillis donc en RDC par notre correspondant Pascal Moulégois.
Eh bien, je trouve que ça confirme ce que nous avons dit tout à l'heure à propos de l'œcuménisme. Le mariage et le sacerdoce ne sont pas incompatibles. Mais c'est en même temps extrêmement intéressant d'écouter l'argumentation, la sacralité du sacerdoce, la sacralité de l'Église. Mais en fait, ça veut dire quoi? Jésus a aboli le sacré pour privilégier la sainteté. Et la sainteté est un don de Dieu et elle est pour tous.
Vous écrivez d'ailleurs vous-même dans votre livre, Marie Jotil, que d'une certaine manière, le célibat est vécu par des prêtres eux-mêmes comme une manière de les contrôler.
Oui, absolument. Parce que c'est dans la logique du pouvoir, comme on l'a dit beaucoup plus haut, et qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent suffisamment d'articulation entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce commun des fidèles. Parce qu'au fond, l'Église, ce n'est pas les prêtres, l'Église, ce n'est pas le pape et les évêques, l'Église, c'est nous tous, l'Église, c'est le peuple de Dieu. J'aime bien la réaction du dernier étudiant que vous avez interviewé en disant « mais certains sont des tricheurs ». Mais c'est vrai, le pape disait que ceux qui sont le plus contre l'homosexualité, c'est en général qu'ils sont eux-mêmes homosexuels. Je trouve que c'est une belle lucidité.
Alors, vous posez la question du célibat optionnel dans ce livre, Marie Jotil, comme une piste de réforme.
Oui, parce que je pense que il faut véritablement distinguer les charismes. Et je pense qu'il faut revenir à la question des ministères. Je parle des charismes qu'il faut discerner. Mais il y a toutes sortes de charismes. Il y a le charisme du leadership, il y a le charisme de la lecture, il y a le charisme, j'ose le dire, hein, de la décoration des fleurs. Parce que c'est des gens qui sont là tout dévoués, même si c'est pour des choses très simples. On pourrait très bien se dire que on reconnaît dans l'Église ces dons de Dieu multiples. Et je crois que c'est comme ça que nous pouvons avancer, ouais, pour faire court.
Et en tout cas, Christophe Chatillon, donc, qui lui a dû quitter le magistère hein, pour la mort d'une femme, qui a lu votre livre, lui est très intéressé par ce célibat optionnel que vous prenez.
C'est ça que je trouve intéressant dans son approche, c'est ouvrir la possibilité de l'option, quoi. L'Église, elle a une dimension très maternelle où elle accompagne des personnes qui sont en difficulté, qui ont des échecs de parcours, elle est là à leur côté. Et je trouve dommage que cette dimension, on la retrouve pas avec ces prêtres qui peuvent aussi, à certains moments, faire un choix. Il est remis en question, mais en même temps, ils ont envie de continuer à servir, ils se sont formés pour, ils ont des compétences. Ils aiment l'Église, ils aiment les personnes qui leur sont confiées à travers leur ministère. Parce qu'ils tombent amoureux, alors qu'il n'y a rien de plus beau que de tomber amoureux, ben on ne leur donne pas cette possibilité-là. Je trouve qu'il y a une part de gâchis, et je trouve que c'est dommage, parce que ce n'est pas l'amour pour une femme qui remet en question l'amour pour le Christ ou l'amour pour une communauté. Tout est compatible à mes yeux, quoi.
Et tout est compatible à vos yeux aussi, Marie Jotil ?
Absolument. Le mariage est un très beau sacrement. C'est une autre vocation, mais les deux vocations, je dirais, sont au même niveau, si je peux m'exprimer ainsi, parce que longtemps, on ne les a pas mis au même niveau. Il faut oser une certaine polyphonie dans la foi, dans l'unité de l'Église, mais commencer par réfléchir à nouveau frais, de quoi est-ce que notre Église a besoin ? De quel ministère a-t-elle besoin ? Et je crois que ça, c'est un point extrêmement important. Ça demande une réinterprétation du donné de la foi, une réinterprétation créative, je dirais, de la tradition, sans que l'Église institutionnalise le sens, comme dirait Michel de Certeau.
Et alors, expliquez-nous le choix du titre de votre livre, La grâce et la pesanteur, en quelques mots.
C'est une aversion de Simone Weil, hein, vous l'aurez compris, mais pour moi, je pense que la grâce est première. Dieu appelle. Il sème partout, comme le dit la parabole. Il appelle tout le monde d'une manière ou d'une autre. On a tous une vocation. Donc la grâce est première. Mais cette grâce ne peut être vécue que dans l'épaisseur de la chair, l'épaisseur du monde, les difficultés du monde. Donc cette grâce, elle suppose la nature, mais la nature va aussi de nouveau permettre à la grâce d'être plus féconde, plus fertile pour moi et pour les autres.
Merci beaucoup Marie Jotil d'être venue en studio.
Merci à vous.
Pour parler donc de cette question du célibat obligatoire des prêtres ou l'option que vous proposez justement dans votre ouvrage « La grâce et la pesanteur ». Merci au témoignage de Christophe Chatillon, ancien prêtre qui envisage désormais de se marier avec sa compagne. Merci au prêtre Amaragag et à ses paroissiens de l'église Notre-Dame de Caldé à Paris. Et merci à Pascal Moulégois et les témoignages qu'il a pu recueillir dans une université catholique à Kinshasa. Cette émission réalisée par Ludivine Amado est à réécouter en podcast sur l'appli Pure Radio et sur les réseaux sociaux X et Facebook à la page Religion du Monde. À la semaine prochaine et tout de suite, le journal sur RFI.